Mage, écoute.
La vision est pleine.
C'est de tout entendre.
H-1000 vous propose de regarder la nature et la montagne avec vos oreilles. Durant 30 minutes, votre radio va déambuler par les chemins.
Saint-Martin-du-Larzac, c'est la maison là à côté de laquelle on s'est garé, c'est là où je suis né. Il y a de ça presque 40 ans. Enfin si, quand vous allez écouter l'émission, ça fera 40 ans. C'est pour la saison prochaine. Et voilà, et du coup je vais vous amener autour de chez moi, on va dire. Même si c'est plus chez moi, mais c'est mon chez-moi de cœur. Et ma mère habite encore ici, ils ont des brebis, mon petit frère est installé en GAEC avec eux, à la ferme en dessous à laquelle on va passer, au Baume. Et voilà, ils ont des brebis laitières, et ils font le lait, plus pour Roquefort, à force, mais ils font le lait pour une coopérative, les bergers du Larzac.
Et donc tu as des souvenirs
Là, dans les buis, j'ai fait des cabanes, oui, bien sûr. C'est ici que j'ai bartacégé, j'étais au cul des brebis et tout ça, petit, oui.
Donc, auditeurs, auditrices, bienvenue pour cette carte postale sonore sur le plateau du Larzac, en compagnie de Nico, Alex, Hugo, Sophia
et Milo.
Et Milo. Voilà, qui d'ailleurs travaille autour de Radio Larzac, qui est située sur la ville de Millau. Mais je vous laisse découvrir avec vos oreilles ce paysage sonore unique en Europe. Faut-il le préciser, le plateau du Larzac, c'est quelque chose d'unique. Des oiseaux, du vent. Nous sommes situés à 780 mètres d'altitude. Méditerranéen qui apporte ce souffle salvateur qui dégage les nuages, et de l'autre côté c'est le climat océanique. Alex, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la radio ?
Déjà, j'ai beaucoup écouté la radio dans ma vie. Et je pense que c'est ça qui m'a donné envie de faire de la radio. Et du coup, il y a un moment, je me suis acheté un enregistreur, j'ai commencé à glaner des sons, à faire des petites créations sonores, et au fur et à mesure de rencontrer les gens qui faisaient de la radio. Et voilà. Et en fait, j'y avais même pas pensé, quoi. C'était même pas... Mais quand j'ai commencé à faire de la radio et travailler dans la radio, ça m'a paru super naturel, quoi.
Et au niveau du son, Je suppose que tu es sensible au son. Et parmi les sons auxquels tu es sensible, lequel t'a le plus marqué ?
Oh bah c'est les sons de la nature, hein, effectivement. Moi, j'ai grandi à la montagne. Donc tous les sons des oiseaux, les sons de la montagne aussi, qui craquent. Ça, c'est un souvenir d'enfance bien présent. Et puis, j'aime le vent aussi. Alors, les micros n'aiment pas trop le vent, mais moi, j'aime le vent. C'est un rapport physique au dehors que j'aime bien.
Et là, auditeur, je vous propose d'écouter l'ambiance générale. Ouais, c'est pas mal, hein. Et toi, Hugo, quel est ton premier souvenir radiophonique qui t'a marqué ?
Mon tout premier souvenir radiophonique. Waouh, tu me poses une colle là. C'est ma grand-mère qui écoute son petit boîtier radio en permanence le soir pour s'endormir et elle a toujours la radio allumée. Ça va être mon premier souvenir parce que j'ai pas mal été avec ma grand-mère.
Et toi, Sophia ?
Mon premier souvenir ?
Ouais.
Je crois que c'est mon père qui écoutait le journal radio le matin avant que je parte pour aller au lycée. Le journal de 6h45. Donc j'ai le souvenir d'être dans ma chambre en train de me lever et tout. Et lui qui était déjà en train de se préparer pour sortir. Et j'entendais plutôt le générique du journal radio depuis ma chambre. Ouais.
Là, c'est un générique différent.
C'est ça. Plus naturel.
Alors, on a traversé une... Comment ça se nomme, là ? C'est massif de buis ?
Alors, ça a été taillé par l'humain. C'était pour faire transhumer les troupeaux à l'époque et puis les bergers. On appelle ça une buissière ou une buissière. C'est un chemin taillé au milieu des buis, comme un tunnel végétal, on va dire. On a traversé ça et là on arrive à la ferme des Baumes et nous on va bifurquer dans un ravin. On va arriver à mi-parcours à une source qui après va aller se jeter plus loin dans la rivière d'Ourbi, au pied du plateau du Larzac, entre le Larzac et le Cosnoir. J'ai arpenté ces coins-là pendant un moment.
Et pour rien au monde, tu quitterais cette région ?
En y réfléchissant, j'ai tout ce qui me convient. Donc non, j'ai pas forcément l'envie. Enfin, je vais voir ailleurs de temps en temps, je me balade quand même, je suis pas scotché à mon plateau. Mais il y a un truc fort sur cette terre qui fait qu'on s'y sent bien et que aussi avec les histoires de lutte du Larzac et de gens qui sont venus pour défendre des terres et plein de choses, en fait il y a beaucoup de gens qui viennent ici. Et qui nous nourrissent aussi. Et finalement, il y a un équilibre ici entre les choses que nous apportent les gens de l'extérieur et ce qu'on vit au quotidien, les circuits courts, le bien manger, le bien vivre, la nature qui nous entoure. Et pourquoi aller chercher ailleurs ce qu'on a chez nous ? Voilà.
Tout à fait, surtout avec ce paysage qui est en train de se dévoiler à vos oreilles. De versant, du versant sud au versant nord, un versant plus humide avec beaucoup de mousse, de fleurs, une forêt de pins maritimes, c'est cela ?
C'est ça, mais ça va se transformer. Il y a aussi beaucoup de noisetiers. En bas, on aura des hêtres. On va vraiment changer de végétation. Et là, il y a une petite faille qui est dans la roche, qui est en train de s'ouvrir gentiment. Il faudrait revenir dans 5000 ans, voir. Ouais. Et ça va s'agrandir.
Parce que le Larzac, c'est un massif calcaire.
Ouais, karstique. Ouais. Et c'est une éponge. Donc l'eau qui tombe sur le Causse, elle reste pas. Elle descend en dessous. C'est un vrai gruyère dessous. C'est rempli de nappes et ça alimente les sources qui viennent se jeter, qui alimentent les rivières en bas et qui abreuvent les gens dans la vallée. Donc il y a plusieurs rivières. Ici, c'est notamment la Dourbie. Mais il y a, de l'autre côté du plateau, il y a d'autres petites rivières, le Cernon, tout ça, qui viennent après se jeter dans le Tarn.
Et comment te positionnes-tu par rapport au tourisme ? Est-ce qu'ici, il est, contenu ? Par rapport aux gorges du Tarn et de la Jonte, où on peut estimer que c'est du surtourisme ?
Ouais, non, ici c'est plutôt contenu, c'est un truc de niche, c'est peut-être pour ça que c'est encore aussi préservé. Effectivement, il y a du monde dans la vallée du Tarn, parce que c'est un peu emblématique et c'est beau la vallée du Tarn. Mais le plateau a aussi des trucs à offrir, mais c'est plus discret et il y a moins de monde. Ce qui explique aussi peut-être pourquoi c'est plus préservé.
Là-bas, c'est Montpellier-le-Vieux.
Ouais, on voit le chaos ruiniforme de Montpellier-le-Vieux. Sur la droite, un peu plus loin, on devine aussi un chaos où on voit des roches qui dépassent un peu sur le fond de ciel bleu. Ça, à mon avis, c'est Nîmes-le-Vieux qui est plus sauvage, qui est plus loin. Et après, on voit une montagne qui domine vraiment en fond de paysage. Et je pense que c'est le Mont-Lozère, puisque le Mont-Aigoual, il doit être un peu plus sur notre droite. Et là, on ne le voit pas. Et puis surtout, il y a l'observatoire en dessus du Mont-Aigoual. Et là, on voit qu'il n'y a pas de construction. Donc c'est sans doute le Mont Lozère qui culmine là-bas en face.
On est surpris par la dimension de ces plateaux qui sont très peu habités. Et tu penses que c'est pour ces raisons qu'il y a une forte identité autour des luttes sociales ?
Bonne question. Est-ce que les luttes seraient liées au paysage et à la densité de population ? Il y avait aussi, effectivement, si on prend ce rapport de densité de population, des décisions qui sont prises là-haut à Paris, qui vont décider de la vie de paysans ici sur le Causse, et de dire, de toute façon, ici, il n'y a rien, il n'y a que 3 cailloux et 2 brebis, donc on va pouvoir étendre le camp militaire. Et en fait, en étant ici, non, ici, c'était pas possible, parce qu'il y avait plus que 3 brebis et 2 cailloux. Donc peut-être il y a un lien à ça. Et puis il y a un lien au territoire, que ce soit partout en France, des projets de lutte, il y en a plein en ce moment partout sur le territoire. Les gens qui vivent sur un territoire, ils n'ont pas forcément envie que des décisions pour eux, pour leur vie, pour leur quotidien, soient prises par des gens un peu déconnectés de ce territoire, dans les grandes instances parisiennes.
Moi, ta réflexion, elle me fait penser un peu à cette question souvent que je soumets. C'est-à-dire, pensez-vous que la nature nous permettrait-elle de dénouer notre asservissement au monde numérique, à la consommation ?
Bah, en tout cas, on est lié à la nature. De plus en plus, les gens s'en rapprochent. Effet Covid ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, il y a toujours, encore pour moi, la différence, il y a l'homme et la nature. Et en fait, on fait complètement partie de l'environnement. Et il y a quand même un rapport de domination, l'humain, et puis le reste de la nature. Et en fait, il faudrait que ça se rééquilibre et qu'on soit au même niveau que tout le monde. Les arbres qui sont derrière nous, le vent qui est là, les animaux, tout le monde, on fait tous partie du même environnement. Et tout devrait être à égalité. Et il y a un gros déséquilibre qui s'est créé. Et il faudrait tendre à remettre les choses à leur place.
À leur place. D'accord. Mais moi, je pense que quand même, les gens qui vivent proches de la nature ont peut-être plus de, je dirais pas de respect, mais plus de recul, voilà, par rapport à ce mode de consommation, de voyage que l'on nous impose.
Peut-être parce qu'on est plus habitué à pouvoir s'échapper aussi plus facilement de notre quotidien, mais par la nature et l'environnement qui nous entoure, que par des distractions numériques, virtuelles. Donc oui, on est plus proche de la réalité parce que c'est palpable, c'est à côté de nous et ça fait partie de notre quotidien plus facilement, quoi.
En tous les cas, on l'entend, la nature sur ces chemins du Larzac sauvage.
Petit point jaune dans des carrés noirs. Elle fait
5 cm.
Ouais, bien 5 cm, ouais.
Enfin, c'est rare d'en voir comme ça des oranges jaunes.
Elle bouge pas.
C'est une belle composition avec toutes les fleurs autour. Dire qu'on serait peut-être dans un terrain militaire ici, on l'aurait pas vu. Si des gens s'étaient pas battus.
Et on serait peut-être même pas là.
Non.
Enfin, on pourrait pas se promener ici.
Et Maëlie, tu aimes toi là, te promener dans la nature?
Ouais.
Et est-ce que t'as un animal préféré?
Le panaro.
C'est quoi le panaro?
C'est comme un gros chat. Il a du blanc sur la tête, du noir, du marron, et il est roux.
Et tu le trouves où?
Dans les forêts au sud de l'Himalaya.
Et comment sais-tu ça? Parce que tu peux donner ton âge, s'il te plaît?
7 ans, j'ai 7 ans.
Et comment tu le sais, tout ça?
Avec l'école, on a fait des exposés. Moi, j'ai choisi cet animal. Et on est allé chercher un livre à la médiathèque. Et c'est comme ça que j'ai tout su.
Et à part le panaro, le plateau du Larzac, c'est quoi qui te plaît ici?
La nature.
Ben, réponse courte et précise. La nature. Bon, alors on va où là, maintenant?
On retourne au point de départ.
Ok, merci.
Attention,
on est au pied. Ah, ça, je crois que c'est de l'arnica. Ou du doronique.
sur les sentiers du plateau du Larzac. Au-delà du fait que ce territoire est marqué par la nature, il y a cette idée de volume. C'est-à-dire qu'à 360 degrés, le plateau, des lignes de crête, laissant apparaître des failles où s'écoulent les gorges du Tarn, de la Jonte, de la Dourbie. Et donc, c'est un peu une vision infinie. La ligne d'horizon, c'est le plateau recouvert par ces forêts de buis, de conifères, de chênes. Et il semble se confondre parfois avec le ciel. Sans une habitation, sans une ligne à haute tension. L'horizon est nature. La nature est infinie. Enfin, infinie, mais si fragile. Sur les sentiers du Larzac, H1000. Donc sur une chapelle militante.
Bah oui, c'est la chapelle de Saint-Martin sur le Larzac. Et à l'intérieur, il y a des livres qui retracent un peu l'histoire du Larzac, une expo aussi. Alors il y a des fabuleux vitraux en forme de sabots de brebis faits par un vitrailliste mis à voix, Claude Bayon. Et donc là, il y a le journal du Larzac. Il y a des revues, le Larzac s'affiche, Larzac Terre de Lutte, les prix sont affichés, il y a une petite...
Ah, c'est super parce qu'en fait, les gens me donnent...
Voilà, ils se servent, c'est en libre accès, quoi.
En libre accès, quoi. D'accord.
Des cartes postales.
Le militantisme est partout autour du Larzac, quoi.
Il est partout, de toute façon, il faut qu'il soit partout. Il est partout.
Ils ont
chacun leur
voix.
Ouais. Même leur syllabe.
Donc ici, c'est plutôt tradition fromagère que viande.
Oui, par essence, sur le Larzac, il y avait beaucoup de troupeaux au vin et le lait était vendu à Roquefort pour la fabrication du Roquefort. Ça, c'était le modèle qui a duré pendant très très longtemps. Et depuis une dizaine, vingtaine d'années, sur l'Arzac, il y en a plein qui sont sortis de la livraison de lait à Roquefort, parce qu'il y avait beaucoup de contraintes. Il fallait des... Là, ils sont contents de trouver des vieilles bergeries comme ça, en pierre, avec la voûte, pour faire des pubs pour Roquefort. Mais par contre, pour faire du lait, ils t'imposent des trucs en plastique, des salles de traite aseptisées, et voilà, pas de bactéries, pas de microbes, rien. Mais ils sont quand même contents de trouver, pour faire les jolies photos cartes postales, des vieilles...
Greenwashing.
Ouais, voilà. Des vieilles bergeries en loze. Et puis, ce qu'il y a, c'est qu'il y a trois catégories de lait pour Roquefort. Il y a catégorie A, ton lait est transformé en Roquefort, donc il est payé tant le litre. Après, catégorie B, c'est les produits diversifiés, parce que Roquefort Société, c'est Lactalis. Et du coup, il y a aussi la feta, il y a aussi plein de produits dérivés. Voilà. Donc là, il est payé moins cher. Et après, quand ils ont trop de lait, et comme il y a beaucoup de bassins de Auvin et surtout Requista, qu'on appelle les usines à lait là-bas, où il n'y a que des troupeaux et des énormes troupeaux, en fait, il y a beaucoup de périodes de l'année où il y a trop de lait, et du coup, ils transforment ça en poudre de lait. Voilà. Pour les moments où il y a moins de lait. Et ça, ils te le payent moins cher. Mais après, la poudre de lait, ils la retransforment en lait, et ils font du roquefort avec. Donc ils font la culbute. Donc voilà, à force de contraintes et puis de pas traiter les éleveurs comme il faudrait, de trop leur demander de normes et de trucs, il doit rester une ou deux fermes ici sur le nord Larzac qui livrent encore à société. Mais il y en a plein qui ont fait de la diversification. Donc soit ils font du fromage, soit il y a une coopérative qui s'est montée au berger, à la cavalerie, qui s'appelle les bergers du Larzac. Voilà, et là, il y a une vingtaine de producteurs. Et ils veulent pas grossir plus que ça. Et voilà, ils transforment, ils ont fait toute une gamme de fromages, des tomes et plein de choses. Et mes parents, maintenant, ils vendent au berger du Larzac. Donc, il y a une petite coopérative avec ouais, une vingtaine de producteurs à petite taille. Et ça marche bien.
C'est bon à savoir quand même, le recyclage du lait en poudre en Roquefort. Souvenez-vous-en, auditeurs, quand vous mangerez du Roquefort Société. Merci pour cette carte postale sonore autour de ce merveilleux parcours que nous avons fait autour de ce hameau.
Saint-Martin-du-Larzac.
Qui n'existerait pas, Sophia, m'as-tu dit?
On n'aurait pas pu faire cette rando aujourd'hui s'il n'y avait pas eu des gens qui ont lutté il y a 40 ans pour garder cette terre libre et ouverte à tout le monde.
Voilà, ouais, sinon, accessible.
La carte postale sonore, elle aurait été différente, quoi.
Elle aurait été avec des tirs de canon.
Voilà, donc à méditer à l'heure actuelle où on trouve que les mouvements écologistes sont des mouvements terroristes. Donc merci pour cette balade au grand air, au grand vent du plateau du Larzac, situé à 800 mètres d'altitude et 360 degrés autour de vous, la nature. À bientôt. Sentir, ressentir la musique de la nature. Ressentir, entendre. La semaine prochaine, je viendrai donc vous rechercher pour une nouvelle édition du programme H1000 sur votre radio.